Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Judaïka, bonjour. Bienvenue sur le 90.2 FM pour cette nouvelle émission des rendez-vous du CCOJB. Mon nom est Miko et à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Eitan Berkman, membre du comité directeur, qui co-animera avec moi ce nouveau numéro. À la technique, comme d'habitude, Clément. Bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir en nos studios Georges Dallemagne. Bonjour monsieur Dallemagne et merci
bonjour.
D'avoir répondu à notre invitation.
Avec plaisir.
Un bref rappel de votre biographie au préalable. Vous êtes médecin à l'UCL et doté d'une maîtrise en politique internationale de l'ULB. Vous avez été à la tête de Médecins sans frontières et de Handicap international. En 1999, vous avez été élu sénateur, puis député fédéral pour les engagés. Vous vous intéressez particulièrement aux enjeux internationaux et êtes très engagé dans la lutte contre le terrorisme. Alors la première question, c'est Eitan qui va vous la poser.
Alors bonjour monsieur Georges Dallemagne,
bonjour.
Pour commencer, revenons un peu sur votre actualité, si vous voulez bien. Donc vous êtes un des fondateurs et aussi un signataire du manifeste des universalistes, donc un mouvement, le mouvement des universalistes qui est un groupe de citoyens de réflexion et de concertation et de la promotion de l'humanisme, des lumières et de la défense du bien commun. Je reprends les termes repris au début du manifeste que j'ai cité. La question elle est toute simple. Georges Dallemagne, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce manifeste? Pourquoi ce manifeste maintenant, dans les grandes lignes? En quoi consiste-t-il?
Il y avait un sentiment que je partageais avec notamment des personnalités politiques pour lesquelles j'avais du respect, mais que je ne connaissais pas et dont, que je lisais dans la presse, d'une société qui était en train de se fragmenter, d'une société où chacun, les identités étaient de plus en plus exacerbées, où il y avait des haines de plus en plus fortes sur les réseaux sociaux. Il y avait l'impression d'un délitement, d'une fracture, d'un séparatisme, dirait le président français, de plus en plus affirmé, notamment à Bruxelles, d'un repli aussi, chacun venant défendre son propre combat au départ des autres, sans tenir compte des autres. Et donc, ces fondements, je trouve, de notre société, qui sont des fondements universalistes, dans lesquels on a, en principe, le souhait de partager ensemble, plus qu'un espace, mais un projet commun, ce fondement-là était en train de se déliter. Et donc, oui, j'ai pris des contacts avec d'autres personnes, Jamila Benhabib, Christophe Magdalens, et progressivement une série de personnes de la société civile, et Viviane Teitelbaum, et du champ politique, pour d'abord les interroger, pour voir si effectivement nous partagions ces préoccupations, pour vérifier effectivement que nous avions finalement aussi beaucoup de choses en commun, au-delà de nos différences, au-delà de nos divergences, et que à un moment donné, il était très important de rappeler ce que c'était que ces éléments que nous partagions, ces valeurs que nous partagions, parce que c'est ça qui faisait le progrès humain, parce que c'est ça qui faisait qu'on faisait société, qu'on partageait un monde commun. Et vous savez, les partis politiques ont plutôt coutume d'annoncer ce qui fait leur différence, ce qui fait leur plus-value avec d'autres. Dans une culture parfois du clash permanent, nous, à un moment donné, on a eu vraiment le sentiment de dire il faut qu'on répète finalement fondamentalement ce qui fait qu'on a du plaisir à vivre ensemble, ce qui fait qu'on se projette dans l'avenir, ce qui fait qu'on a envie effectivement d'un progrès humain et comment on peut encore le défendre. Et ça nous paraissait très important de rappeler cela, parce que ce fondement universaliste, il était en danger, il est en danger. Et donc voilà, on a rédigé ce texte, il a fait des allers-retours. Julien Huitenda nous a rejoint également, Marc Huitendal, d'autres, Sam Touzani, toute une série d'autres personnalités ont fini par nous rejoindre, des frères d'Ardennes, enfin il y a toute une série de personnalités qui nous ont rejoints. Et donc à un moment donné, on a eu le sentiment qu'il était temps de rendre ça public, de proposer une adhésion à cet appel, à cette volonté de faire société ensemble sur des bases communes, universelles, humanistes. On a été très, très surpris de l'enthousiasme que ça a créé. Beaucoup de gens nous ont dit, la première chose qu'ils nous ont dit, je croyais que j'étais seul, j'étais isolé, que finalement, dans mon coin, j'étais inquiet, je voyais ce monde qui était en train de s'effondrer, ce à quoi nous croyons tous était en train de s'effondrer. Chacun se victimisait, chacun détestait l'autre, chacun considérait que son seul unique combat valait, était le seul qui valait, que les autres ne valaient pas, etc. Donc, voilà, c'est ce rassemblement-là. Et on est à plus de 2000 signatures aujourd'hui. Et donc, on est très heureux avec, encore une fois, des gens qui viennent d'un peu partout, et notamment dans le champ politique, de la plupart des partis démocratiques. Ça a été un peu plus compliqué chez Colo, mais du MR, de Défi, des Engagés, du Parti Socialiste, même en Flandre. Donc l'idée aujourd'hui est d'essayer effectivement d'aller au-delà de l'espace francophone. On a aussi des signaux qui viennent de la France aujourd'hui. Et donc voilà, ce mouvement-là, il nous paraît important en campagne électorale de rappeler que oui, certes, nous pouvons avoir des divergences, il peut et il doit y avoir une délibération démocratique sur toute une série d'éléments, mais que fondamentalement, nous partageons la volonté d'un projet humaniste, universaliste, et que c'est ça qui fait la force finalement de l'espace de liberté que nous avons ici en Belgique et en Europe, et qu'il faut préserver ces libertés fondamentales.
Donc à un peu plus de 80 jours des élections, l'idée quand même d'interpeller les futurs candidats, les partis.
Oui, tout à fait. Et je peux d'ailleurs vous annoncer en primeur que, par exemple, nous aurons un événement à Volubilis le 22 avril sur la question de l'enseignement, notamment sur base de ce film Amal, que vous avez peut-être vu, qui montre la radicalisation de certains élèves dans certaines communes, le communautarisme et finalement un enseignement qui paye son combat universaliste au prix de sa vie. Et donc on a voulu au départ de ce film avoir un débat sur effectivement où en est l'enseignement aujourd'hui par rapport à ces poussées fondamentalistes radicalistes.
Justement, j'allais vous poser la question sur le communautarisme. À l'approche des élections importantes dans notre pays, tant au niveau fédéral que régional et même européen, on a vraiment le sentiment que le communautarisme prend de plus en plus d'ampleur. Pourrions-nous connaître votre analyse sur ce phénomène ?
Alors, je partage votre inquiétude, votre sentiment. Je suis quand même... Je vois comment sont construites les listes à Bruxelles. Alors, je crois qu'effectivement, des listes électorales, elles doivent refléter la population. Mais j'ai parfois le sentiment qu'on interroge moins aujourd'hui le projet que porte un candidat plutôt que son identité. Et ça m'inquiète parce que je pense qu'à travers un candidat, à travers un élu, eh bien, il y a un espoir d'un progrès humain, il y a un espoir d'un travail qui sera accompli, d'une capacité, d'une expertise, d'une volonté de travailler pour tout le monde. Parfois, on a le sentiment qu'effectivement, les listes sont plutôt conçues pour faire plaisir à telle et telle et telle communauté, telle et telle identité. Encore une fois, l'un et l'autre peuvent être compatibles, mais il est important, en tout cas, de rappeler qu'un candidat, c'est d'abord le porteur d'un projet.
Absolument. Mais suite à ça, il apparaît de plus en plus que l'entrisme des mouvements islamistes dans notre pays est un phénomène qui devient quasiment ingérable. Ces mouvements ont soit de pignon sur rue, notamment dans le quartier Schuman, soit se cachent sous le nom d'organisations sportives ou culturelles, ce que ne nie plus le nouveau ministre de la Justice d'ailleurs, qui, répondant à une interpellation du député Michael Freilich, a reconnu qu'il fallait être vigilant et n'a pas nié l'existence notamment d'un bureau du Hamas sous le couvert d'une organisation qui s'appelle EPAC. Les bureaux de ces mêmes organisations, qui sont chez nous, qui recrutent parmi les jeunes, notamment des futurs combattants en Syrie, ont été fermés dans d'autres pays comme la France. Alors, ils ont trouvé refuge dans notre pays sans aucune contestation. Comment peut-on expliquer un tel niveau de complaisance ?
C'est une bonne question et c'est un débat que je porte depuis un certain nombre d'années. D'abord, c'est vrai que l'entrisme islamiste radical, il est clair, il est réel, il n'a pas d'hier. Il y a une compétition d'ailleurs très forte pour la place de Bruxelles entre différents mouvements. Iraniens, salafistes, fréristes, le Qatar, on s'est beaucoup intéressé au Qatarguet s'agissant du Parlement européen. Je trouve qu'il serait intéressant de s'intéresser à ce pays s'agissant de son entrisme en Belgique et de son influence en Belgique. Et donc oui, il y a là un danger, il y a une loi belge. Vous savez, la Belgique, c'est un pays... bon enfant, on l'a toujours dit, et ça a ses bons côtés. Oui, c'est vrai, c'est un pays où on est plutôt généreux, ouvert, et tant mieux. Mais il y a des moments où les dangers sont sous-estimés, où les menaces sont sous-estimées. Et je pense que dans ce domaine-là, on sous-estime les menaces. Et je pense qu'il est important de pouvoir effectivement renforcer la loi. Parce que ce que dit le ministre aussi, quand, dans l'affaire que vous venez d'évoquer, c'est que la loi belge ne permet difficilement de fermer certaines officines. Je pense qu'il faut alors se repencher sur la loi. Moi, j'ai déposé une proposition de loi sur les mouvements extrémistes, radicaux. Et ce projet de loi devrait pouvoir être discuté avant la fin de la législature. Bon, il vient d'un député de l'opposition, donc je ne me fais pas beaucoup d'illusions, mais je, à travers ce projet de loi, c'est un débat que j'aimerais avoir là-dessus.
Ça enclenche déjà.
Je pense que le CCIB, ici à Bruxelles, qui a vu son organisation sœur se voir fermée en France parce que les Français estimaient qu'il y avait là un danger pour le pays, pour le vivre ensemble, pour les Français, je pense qu'il est tout à fait effectivement interpellant de voir que le même type d'organisation non seulement continue à exister en Belgique, mais reçoit des fonds publics ici en Belgique. Donc c'est tout à fait interpellant. Voilà d'ailleurs une organisation qui m'avait pointé du doigt de manière extrêmement violente, estimant que j'avais dépassé les limites de la liberté d'expression, que je devais être condamné, expulsé de mon parti. Tout ça pour avoir enfoncé quelques portes ouvertes sur la question de l'islamisme radical.
Ouais, ok.
Georges Dalmagne, depuis le 7 octobre et la date des attentats barbares du Hamas en Israël et la réponse d'Israël à ces attaques, on assiste à un antisémitisme en forte recrudescence. Non pas qu'il n'était pas en recrudescence avant, mais depuis le 7 octobre, pour ceux qui ne voulaient pas le voir, il est de plus en plus difficile de ne pas le voir. Et il y a un réel sentiment d'abandon de la part de beaucoup de membres de la communauté juive. Et aussi un sentiment d'incompréhension de la part de beaucoup de citoyens belges qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que ce problème n'est pas pris à bras-le-corps. Alors, vous avez participé à des rassemblements devant l'ambassade de France, vous avez participé à la manifestation nationale contre l'antisémitisme en décembre. Et on entend beaucoup les autorités politiques qui se disent inquiètes par rapport à ce phénomène, qui viennent sur les plateaux, qui nous explique que chaque acte doit être poursuivi. Et pourtant, en Belgique, il n'y a aucune stratégie de lutte contre l'antisémitisme. Rien n'est mis en place. Alors, il y a eu, en 2004 déjà, l'installation d'un mécanisme de veille interfédéral contre l'antisémitisme. Faut-il encore définir ce que cela veut dire ? Ça a été réactivé récemment. Et en fait, ce mécanisme porte très bien son nom parce qu'il est bien souvent en veille. On s'est rencontrés le 15 janvier et la prochaine réunion est prévue pour le mois de septembre. Et donc, on assiste à cette recrudescence d'une part, on assiste à ce qui semble être une volonté politique d'autre part, mais qui est dit, elle est dite, mais les actes ne suivent pas. Et pourtant, les chiffres augmentent. Et il ne manque pas de textes, il ne manque pas de décisions. Au niveau européen, au niveau belge, on a quand même une résolution du Sénat en 2018 portant sur la question. On a eu une résolution du Parlement européen en 2017, plusieurs résolutions du Conseil de l'Union européenne en 2018, 2020, 2022, une stratégie européenne de lutte contre l'antisémitisme. Tous ces textes existent, de nombreux exemples existent. La France a adopté une stratégie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Espagne et j'en passe bien d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que la Belgique est-il un si mauvais élève ? Alors que d'une part, on assiste à une recrudescence qui peut se voir dans les chiffres et d'autre part, tout est mis en place, tout est offert sur un plateau à nos institutions pour adopter ces textes et pour faire appliquer la loi. Qu'est-ce qui se passe ?
Je pense que c'est une grave question parce que à travers cette question, il y a la manière dont la Belgique examine notamment les événements au Proche-Orient, les attentats terroristes du 7 octobre, la guerre à Gaza. Il y a une espèce d'antisémitisme d'atmosphère qui est très particulier à l'espace belge en général, pas seulement francophone d'ailleurs, qu'on retrouve à la Chambre. Moi, j'ai toujours été extrêmement choqué et frappé par le silence qui accompagnait les massacres du 7 octobre. Il a fallu beaucoup de temps pour que certaines responsables politiques qualifient correctement ce qui s'était passé, et encore aujourd'hui. Et donc, oui, il y a ce regard et il y a cette idée que l'antisémitisme, ça concerne finalement le négationnisme de la Shoah et que, en quelque sorte, ce ne serait pas une forme d'antisémitisme contemporain. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un examen approfondi que devraient avoir les politiques sur leur regard sur l'antisémitisme. En tout cas, moi, je le constate, cet antisémitisme, je le constate notamment dans mes relations d'amis de la communauté juive qui me disent avoir peur pour eux, pour leurs enfants, et donc pourtant des personnes qui... Je dirais, n'avait absolument aucun militantisme particulier sur cette question-là. Et donc oui, c'est vrai qu'il est temps d'avoir une stratégie, il est temps de reconnaître cette question, il est temps d'interdire notamment, hein, ça passe par là aussi, ça a montré des lignes rouges, hein, par rapport à certaines organisations comme Samidoun, comme BDS. Je pense qu'il y a, il y a insuffisamment de signaux clairs qui sont envoyés sur ce que ça représente, l'antisémitisme comme danger pour la communauté juive, pour la Belgique, pour l'Europe, pour le monde. En quoi c'est un phénomène tout à fait particulier. Je crois que tout cela, malheureusement, est insuffisamment aujourd'hui examiné. Et on est dans des rites sur le négationnisme, oui, sur la Shoah, oui, c'est important. Mais on n'a pas suffisamment, je trouve, conscience des déclinaisons contemporaines de cet antisémitisme.
Et ne pensez-vous pas, je vais peut-être aller un pas plus loin, qu'il y a une sorte de volonté peut-être qui serait cachée ou peut-être inconsciente de la part de certains, inconsciente, j'en doute, mais de la part de certaines personnalités politiques, je pense par exemple à certains ministres ou secrétaires d'État de notre gouvernement fédéral qui ont une indignation que je dirais sélective. Par exemple, vis-à-vis de ce qui se passe au Proche-Orient et qui vont jusqu'à interpeller l'ambassadeur d'Allemagne. On a aussi le 8 mars dernier, lors d'une marche pour le droit des femmes, des femmes qui se définissant comme juives, qui doivent être exfiltrées de la manifestation. Et pourtant, ça se passe dans l'indifférence, mis à part quelques personnes comme vous qui avez réagi sur les réseaux sociaux. Mais La photo générale, c'est un peu l'indifférence. Et pour moi qui viens d'une ville de province, eh bien, mes amis, ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas tout ça. Et ils me disent, mais on n'est pas au courant. Et donc, comment on explique comment est-ce qu'on fait en sorte que des... Qu'est-ce qu'on dit à ces personnes qui ont été exfiltrées de cette manifestation ? Vous avez votre place en Belgique.
Non, c'est extrêmement grave. Il y a cette lecture, effectivement, vous dites très bien, hein, cette indignation sélective. Moi, on m'accuse de l'inverse. Pourtant, j'essaye de regarder le réel, toujours. J'essaye de voir quels sont les crimes qui sont commis, toujours. Je ne veux pas non plus négliger le fait que la manière dont la guerre se mène à Gaza peut effectivement poser des problèmes humains extrêmement graves. Mais c'est vrai qu'il y a cette indignation sélective. Je l'ai vu au moment du débat à la Chambre sur la résolution sur le Proche-Orient. Ça a été très compliqué d'aboutir à une résolution. Et cette résolution, je l'ai longuement amendée et aucun de mes amendements n'a été accepté par la Vivaldi. C'était des amendements qui pourtant venaient nuancer des prises de position qui étaient effectivement qui avaient oublié certains éléments, notamment sur le fait qu'effectivement certains hôpitaux à Gaza pouvaient servir de base militaire. Toute une série d'éléments comme ça étaient systématiquement gommés, même sous forme de questions, même sous forme d'hypothèses.
Oui, on a vraiment le sentiment que il y a une position de notre pays où il y a un peu plus de compassion. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de la compassion. Il y a plus de compassion à l'égard des victimes à Gaza, dont on sait que malheureusement, un grand nombre d'entre elles sont prises en otage par le Hamas. Mais il n'y a aucune compassion à l'égard des victimes israéliennes, à l'égard de l'État d'Israël, de ce qui s'y passe pour le moment. Alors qu'on entretient des relations avec l'État d'Israël, c'est un pays démocratique avec lequel on entretient des relations depuis 1950, si je ne m'abuse. Il n'y a aucune compassion à l'égard de sa population. On ne parle quasiment plus des otages qui sont à Gaza, parmi lesquels il y a des femmes, des bébés, des personnes âgées, dont on ne sait même pas encore aujourd'hui s'ils sont encore en vie. On a l'impression vraiment que c'est passé quasiment à la trappe. Donc pour nous, un déséquilibre qui inquiète beaucoup la communauté juive dans la position de notre pays par rapport à ce conflit. Et là, on parle non pas d'une guerre entre un pays démocratique et un autre pays, mais entre un pays démocratique et une organisation terroriste. on ne se pose pas des questions, on se pose des questions, on se trouve la logique qui est adoptée par nos politiques aujourd'hui.
Non, c'est une question fondamentale. Je crois qu'encore une fois, on oublie qu'effectivement Israël est un pays démocratique. On oublie qu'il y a un débat très vif en Israël sur la manière dont la guerre est menée, qu'il y a toute une partie de la population qui ne soutient pas nécessairement la manière dont cette guerre est menée, et qu'on a en face effectivement un mouvement terroriste, un mouvement sans foi ni loi, un mouvement qui n'a jamais fait grand cas du sort de sa population. Et qui, effectivement, utilise la propagande, la dissimulation, les fake news de manière systématique. Et on porte crédit à certaines informations qui se révèlent tout à fait inexactes. Et je suis sidéré de voir ça, en fait. Je dois l'avouer, je suis sidéré. Je ne comprends pas comment il n'y a pas... Parce que ça ne concerne pas seulement les responsables politiques. Hein, ça concerne une partie de nos médias également. Ça concerne aussi les universitaires. Cette incapacité qu'on a à essayer... Alors, ce n'est pas facile, on le sait, de voir quel est le réel, quelle est la situation, quelles sont les choses qui sont inacceptables, quels sont les événements qu'il faut dénoncer et qu'est-ce qui fait partie, finalement, de la guerre de propagande qui se joue en essayant de démêler les chevaux. Et donc, oui, c'est vrai que, encore une fois, l'histoire, je trouve, sera probablement assez sévère sur la manière dont nous racontons les événements aujourd'hui.
À espérer. C'est un fait que... Oui.
Et si je pouvais rajouter, j'ai été assez interpellé quand notre Premier ministre a fait sa tournée au Moyen-Orient, il y a une dizaine de jours. Il est passé par l'Égypte, ouais. Il est passé par le Qatar, il est passé par la Jordanie. Il ne s'est pas arrêté en Israël. Pourtant, ce pays se trouve entre ces trois pays-là. Et moi, je me pose quand même une question, c'est qu'on a une tradition en Belgique, c'est celle du consensus, c'est celle de la discussion, de la négociation. On est reconnu dans les instances internationales pour ça. Et aujourd'hui, je me demande quelle est la crédibilité de notre pays quand nos représentants du gouvernement parlent de pourparlers et de cesser le feu. Pourquoi on ne s'arrête pas en Israël? Pourquoi on ne va pas parler avec le gouvernement, qu'on l'aime ou pas, c'est le gouvernement israélien? Pourquoi est-ce qu'on ne discute pas pour avoir au moins un son de cloche différent? Et est-ce que cela ne participerait pas d'une manière ou d'une autre à une forme de, pas de légitimation, mais d'acceptation du fait que, bah oui, il y a un gentil dans l'histoire et un moins gentil qui serait Israël, par exemple?
En tout cas, il faut s'interroger sur la raison pour laquelle ce conflit occupe tout l'espace médiatique des conflits dans le monde. Parce qu'on a coutume de dire que ce serait le conflit le plus sanglant, le plus cruel. J'ai toujours eu beaucoup de mal à hiérarchiser les conflits parce qu'une vie humaine est une vie humaine. Mais c'est vrai que je prends souvent cet exemple. La guerre au Tigré qui a duré de 21 à 2023, c'est-à-dire hier, a fait 600 000 morts. Il y a eu, je pense, en tout et pour tout, 5 questions parlementaires. Et ce ne sont pas les partis qui sont le plus aujourd'hui qui montent le plus au créneau, qui ont posé ces questions sur le Tigré. On parle beaucoup de famine et il y a évidemment de graves pénuries alimentaires à Gaza, mais qui parle du Soudan, qui parle de l'Est du Congo, etc. Et donc, quelle est cette question fondamentale qui fait qu'il y a tant de passion et de virulence et des mots aussi violents qui sont utilisés sur le Proche-Orient, sur Gaza, sur Israël? C'est une question importante. Je ne veux pas y apporter de réponse trop rapide, mais c'est la question que j'ai aussi posée au Parlement en disant, écoutez, pourquoi est-ce qu'on n'aborde jamais, par exemple, la situation au Soudan aujourd'hui, où il y a une famine extrêmement grave? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des victimes qui méritent toute notre compassion et d'autres qui n'en méritent aucune? Pourquoi faut-il toujours rappeler que la guerre s'arrêterait probablement très, très vite à Gaza si les otages israéliens étaient libérés? Pourquoi faut-il toujours le rappeler? Donc il y a effectivement de nouveau une lecture de l'histoire qui, moi, m'interpelle et dont on devrait vraiment se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a ces récits-là par rapport à finalement à un monde dans lequel il y a malheureusement aujourd'hui toute une série de conflits qui sont absolument négligés. Je reprends un autre conflit, le Yémen, il y a eu, je pense, de mémoire, près de 300 000 morts. Bon, voilà, on n'en parle pas. Donc, ça pose de vraies questions.
Tout à fait. Mais voilà, on arrive au terme de notre émission. Monsieur Dalmagne, mille merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir, merci de votre invitation.
Merci Aïtan, merci Clément. Voilà, on arrive au terme de notre émission de ce jour. Vous pouvez nous retrouver sur le 90.2 FM le mercredi à 16h, jeudi à 10h, dimanche à 19h et sur la page Facebook de Radio Judaïka. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission des rendez-vous du CCOJB. Merci à tous et merci encore, monsieur Dalmagne.
Avec grand plaisir, merci de votre invitation.